François Bernard.
Bonjour, bonsoir, selon le lieu sur la planète d'où vous écoutez RFI. Environnement, développement et tourisme vont-ils bien ensemble? C'est sur cette question qu'Agnès Rougier nous invite à réfléchir dans le reportage qu'elle vous propose, troisième d'une série de 8, dans des réserves de biosphère ouest-africaine.
La plupart veulent voir la plus grande mammifère terrestre qui est l'Occidental africana. En même temps, si vous voulez, le nom vernaculaire éléphant. Et aussi le guépard. Même si c'est une espèce rare observée, on espère que cette année aussi ça va être pareil.
Rendez-vous dans une vingtaine de minutes. Dans TerraTech, aujourd'hui, l'industrie photovoltaïque et les nouveaux défis que doivent relever l'industrie pour développer cette énergie renouvelable. Mais tout de suite, et comme chaque jour, le commentaire de l'actualité de ce mardi 11 août 2009 avec le journaliste Eric Glover. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef de service sciences et environnement et technologie à Courrier International. Alors, on commente l'actualité et on commence tout d'abord avec cet avertissement de la Commission européenne. L'Europe, dit-elle, a perdu 200 000 hectares de forêt et de maquis depuis le début de l'été et les incendies vont se multiplier si les gouvernements ne font rien pour les prévenir. La Commission, néanmoins, avoue son impuissance en la matière. Elle peut inciter à la coordination, elle le fait, mais les États sont seuls maîtres, dit-elle. C'est à eux de préparer les terrains, de prévoir les réserves d'eau. Alors, est-ce qu'on peut dire, Eric Glover, que les États européens sont négligents ?
Moi, je dirais non. J'aurais une réponse très américaine et peut-être désagréable. Je dirais « so what ?». C'est-à-dire, bon, ça a brûlé, et je dirais, et alors, des incendies de forêt, il y en a depuis toujours, c'est naturel, ça fait partie des choses normales autour de la Méditerranée, des incendies. Ce qui est redoutable, c'est que désormais, ils menacent des habitations, ils menacent des biens, ils menacent des gens. Alors, la réflexion, à mon sens, elle est peut-être autant à mener sur la lutte contre les incendies, et c'est d'ailleurs ce que l'on trouve dans la presse, notamment la presse portugaise, se pose ce genre de questions, que dans la manière dont les gens s'implantent à côté de zones qui sont réputées dangereuses. Et donc là, on se retrouve face à une autre problématique qui est l'entretien de ces zones. Quand elles sont laissées à elles-mêmes, les feux sont moins forts pour plein de raisons d'entretien. Donc, bon, il y a des buissons, il y a certaines plantes qui n'apparaissent pas ou certaines plantes qui sont là et qui vont couper le feu au moment où ça va se faire ou qui vont l'empêcher de prendre de l'ampleur. Et ce qui se passe trop souvent quand des humains commencent à gérer un habitat, c'est qu'il est géré à notre profit et on se surprend ensuite de voir que la nature reprend le dessus d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça, le risque et le problème.
C'est pour ça que vous dites « so what ?» et alors
mais à voilà. Et alors, c'est ça, c'est-à-dire que 200 000 hectares, bon, ok, très bien, 200 000 hectares, mais il en reste plein. La forêt n'est pas un problème en Europe. C'est-à-dire qu'on a largement de forêt. Aujourd'hui, il y a plus de forêt en France, par exemple, qu'il y en avait sous Louis XIV, sous Napoléon, au XIXe siècle. D'ailleurs, il faut remonter à peu près à Philippe le Bel pour retrouver une forêt qui soit identique à la forêt française. Donc, on ne manque pas de forêt, on ne manque pas d'arbres. On a d'autres types de problèmes d'environnement, mais celui-là n'en est pas un. Donc, voilà.
Un écho original de votre part, parce que la plupart des écologistes, des environnementalistes se plaignent de la perte énorme de biodiversité quand la forêt brûle.
Oui. Alors, ça, c'est encore un autre problème, la biodiversité. On est bien d'accord. Maintenant, de la biodiversité, il y en a beaucoup, partout. Effectivement, il faut la préserver, c'est une évidence. À ce moment-là, dès qu'il y a une installation humaine, vous avez une perte de biodiversité. Mmh. Il faut savoir comment l'homme va vivre avec la biodiversité, avec son espace. Bon, l'incendie est une perte de biodiversité, mais l'ouverture d'un parking aussi, mais n'importe quelle installation aussi. Donc, pourquoi cette installation-là serait-elle mise plus en avant que d'autres types? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'elle fait peur.
Bon. C'est un avis, vous le partagez, et on est content de l'entendre. Je vous présente Anna Favnek, Eric Glover. Vous êtes Anna, nous parler de la compagnie aérienne Scandinave SAS qui va tester une nouvelle procédure d'approche de ces appareils, plus écologique manifestement, puisqu'elle permet de réduire la consommation de carburant des avions. Alors expliquez-nous comment.
Alors, habituellement, avant d'atterrir, le pilote fait descendre l'avion par palier. Une procédure qui requiert une quantité importante de fuel. et aussi une distance assez grande. La nouvelle procédure testée par SAS la nuit dernière, c'est de commencer par mettre les réacteurs au point mort. L'avion plane ensuite, guidé par un satellite qui lui indique une trajectoire optimale. Et le pilote ne reprend les commandes que juste avant l'atterrissage proprement dit. Il y a donc moins de fuel consommé, mais aussi moins d'émissions de dioxyde de carbone. En moyenne, on économise 100 kg de carburant par atterrissage, ce qui fait 300 kg équivalent carbone. En Belgique aussi, on s'est mis à l'atterrissage vert. La technique est assez proche. Elle s'appelle l'approche en descente continue. Testée pendant l'été à l'aéroport Bruxelles National, l'approche belge n'implique pas, elle, de couper le moteur, mais de faire avancer l'avion avec une puissance minimale. En revanche, selon le secrétaire d'État fédéral de la mobilité belge, Étienne Choup, cette dernière technique n'a qu'un effet marginal sur une autre pollution, le bruit.
Ah. Alors, je ne sais pas si ça vous inspire un commentaire avec le verre.
Oui, il y a une chose, moi je trouve ça fantastique, mais je me demande comment on fait, par exemple, à Roissy, où c'est tout le temps embouteillé, où la gestion des avions, les avions n'arrivent jamais à l'heure parce qu'ils ne décollent pas au bon moment. Un avion qui décolle à l'heure, ça n'existe pas. Hein. C'est comme les trains qui arrivent à l'heure. Et voilà, c'est méchant ce que je viens de dire. Oui, c'est parce que je prends souvent le train de la SNCF et qu'il n'arrive jamais à l'heure. Et donc, mais c'est un vrai problème, c'est-à-dire que je trouve ça extraordinaire, mais ça peut marcher sur des petits aéroports, parce que sur des gros aéroports, il y a trop d'avions qui arrivent et qui sont obligés de faire des 360 degrés pour attendre juste qu'on leur donne la fenêtre d'atterrissage. Donc, ce que je trouve fantastique et passionnant aujourd'hui dans la lutte contre, la pollution, c'est que d'un côté, et ça revient un peu à la question des incendies, que d'un côté, on fait face à des choses qui nous effraient ou dont on se dit qu'elles sont énormes et qu'elles posent question. On a des solutions qui sont relativement évidentes. Dans le cas des incendies, c'est faire attention aux implantations, c'est l'entretien, donc ça a un coût tout ça. Personne n'a envie de faire ce coût-là parce que c'est très cher, c'est beaucoup de temps. Dans le cas des avions, ça voudrait dire peut-être moins de trafic ou mieux gérer, donc répartir différemment l'espace aérien. Et là, on se heurte à quelque chose qu'on appelle l'économie et où on nous dit « Ah non, ça n'est pas possible ». Or, c'est pas le bon terme, pas possible. C'est « on ne veut pas ». Ce qui n'est pas la même chose. On ne veut pas parce que ça coûte trop cher et qu'on a toujours en tête que l'on met l'économie avant l'environnement.
Les pays scandinaves en pointe dans les années 70 sur la politique de protection sociale, est-ce qu'ils le sont aussi aujourd'hui en matière d'écologie ?
En pointe, je pourrais pas affirmer. C'est une préoccupation constante. Ça, c'est une évidence à tout niveau. C'est-à-dire que quand on est dans les pays scandinaves, les produits verts, comme on dit, c'est une préoccupation. Les gens sont habitués à se mettre en question, justement, même au niveau économique. On a tendance à penser que, par exemple, le vélo, c'est quelque chose. Moi, j'entends à Paris, le Vélib, c'est super en été, mais en hiver, qu'est-ce qu'il pleut ? C'est vrai que quand vous êtes à Copenhague, le vélo, il y a pas besoin de Vélib parce que ça n'a aucun avenir. Tout le monde a un vélo et tout le monde circule en vélo, y compris quand il y a de la neige. Donc ça veut dire que c'est entré dans leurs mœurs, c'est dans leurs habitudes, la remise en question de leur façon de vivre est liée à l'environnement. Et je pense que ça, c'est quelque chose dans quoi les Scandinaves sont très très forts. Ils sont peut-être pas ni en quantité de pollution, ni leur approche des révolutionnaires. En quantité de pollution, ce ne sont pas des énormes pollueurs peut-être, mais en revanche, ils ont la capacité de véhiculer de nouvelles idées et de les faire passer. Et ils ont une autre énorme qualité, je pense, c'est qu'au niveau diplomatique, ce ne sont pas des grandes puissances. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas en tête la volonté de puissance que des Français, des Américains, des Russes ou des Chinois aujourd'hui peuvent avoir. Ils ont une volonté de résultat. Et ce qui est beaucoup plus important, ce sont des pays comme la Finlande ou comme le Danemark. C'est pas pour rien que ça sera à Copenhague, à mon sens, que va se jouer partie de l'avenir de la planète à la fin de l'année. Eh bien, ce sont les Scandinaves qui sont partie du moteur européen de la lutte contre la pollution et pour l'environnement.
À Copenhague, donc la grande réunion sur le réchauffement climatique. Greenpeace a débuté son opération hier visant à empêcher la pêche au chalut dans une zone maritime protégée au large de la Suède. On y reste en y coulant des obstacles. Alors il y a 180 blocs de pierre qui pèsent 2 à 3 tonnes à peu près, qui entendent ainsi gêner les chaluts traînés par les pêcheurs qui, selon Greenpeace, abîment les fonds marins. Alors Greenpeace, aiguillon indispensable du combat environnemental, selon vous ?
Ah, c'est une question piège. Oui, par la communication que ça représente, oui, par le type d'action. Maintenant, faut-il d'énormes ONG qui finissent par devenir des lobbies qui s'auto-alimentent pour pour lutter à ce niveau-là, moi, je ne sais pas. Je pense que l'environnement est un travail qui devrait prendre corps beaucoup plus au niveau local qu'au niveau international. Et ces grandes ONG me font souvent un peu peur, au sens où j'ai le sentiment qu'elles finissent par défendre plus leurs propres intérêts que ceux de la planète. C'est pas seulement Greenpeace que je vise. Maintenant, il faut être honnête.
C'est aussi Greenpeace que vous visez.
Absolument. Oui. C'est aussi, mais c'est pas que. C'est pas spécifique à Greenpeace. C'est spécifique à de grandes structures qui, au bout d'un moment, ont de tels frais ou de telles charges, de tels modes de fonctionnement qu'il faut qu'elles s'auto-alimentent, il faut qu'elles trouvent tout le temps des raisons d'être et de nouveaux combats, etc., etc. Mmh. Et bon, mais ça m'empêchera pas de penser que ça a une utilité certaine, qui est celle de l'alerte, qui est celle de la veille. Il faut juste être faire très attention avec eux, en n'oubliant pas que ce ne sont pas ce sont des lobbies à la base. Voilà, ce sont des lobbies comme d'autres, et il faut s'en souvenir.
Il est l'heure de notre séquence musicale, Eric Glover. On reprend notre conversation juste après cette chanson de Faithless and Cat Power.
C'est pas du vent.
C'est Cat Power. La chanson s'appelle A Kind of Peace. Merci d'écouter C'est pas du vent. On est en compagnie du journaliste Eric Glover, chef du service Sciences, Environnement et Technologie à Courrier International. Sciences et Technologie, je voulais vous poser cette question. C'est une bonne recette pour régler les problèmes environnementaux qui se posent à la planète, selon vous ?
Ah, ça, c'est une excellente question. On dit souvent ça quand on vous en pose, mais vraiment, sincèrement. Là, on vient de publier sur Courrier et sur le site, et on va publier dans le numéro de premier numéro de reprise, là, un papier autour de Desertec, alors qui est une idée d'aller installer une espèce d'usine solaire dans le Sahara. C'est les Allemands qui sont derrière le projet. C'est un projet de 400 milliards d'euros. 400 milliards d'euros. 400 milliards, pour aller récupérer de l'énergie solaire thermique et l'acheminer ensuite vers l'Europe. Et il y a derrière cette espèce d'idée du 19e siècle qui est le culte du progrès, et effectivement que la technologie va nous sortir de tout. À titre personnel, je pense que c'est en balance entre la bêtise et le délire. Parce que je ne crois pas un instant à ce genre de choses.
Pourquoi ?
Parce que c'est disproportionné, parce que ce genre de projet, on ne les mène jamais au bout, parce que c'est tellement complexe qu'entre le projet de départ, sur le papier, tout marche, et puis au fur et à mesure, la technologie, c'est le moteur de votre voiture ou de votre vélo même. C'est-à-dire qu'entre ce que vous voyez qui doit fonctionner au début, et puis au fur et à mesure, il y a des tas de trucs, vous apercevez que tel machin, ah, petit réglage ceci, ça améliore, petit réglage cela, ça marche sur un vélo, ça marche sur une voiture, mais quand c'est 400 milliards d'un gros truc, ça ne marche plus du tout, quoi.
La distance, j'imagine, entre le lieu de production
voilà, pertes,
et le
ça aussi,
usage.
La notion de perte, c'est une notion qui est terrible.
À propos de votre travail en faveur de la défense de l'environnement à Courrier International, où vous observez la presse mondiale, vous avez le sentiment d'une montée en puissance de la problématique environnementale dans les journaux du monde ?
Alors, montée en puissance. D'abord, je vais vous reprendre sur un point. Je ne travaille pas en faveur de la défense de l'environnement. Je travaille en faveur de l'information sur l'environnement. C'est-à-dire que j'essaye.
Sa documentation,
c'est...
d'accord.
Voilà. Non, mais je dis ça parce que, voilà, je sais bien. Parce que justement, vous faites la même chose. Je sais, je le sens bien et c'est important. C'est-à-dire que j'essaye pas de prendre position. C'est-à-dire, il y a des cas où je peux faire. J'ai fait une sur les gens qui disent que le réchauffement climatique n'existe pas. Ma conviction profonde est qu'il existe. Mais j'estimais important qu'un lecteur sache que dans le monde, il existe des gens qui ne croient pas à ça. Parce que si on ne le sait pas, on ne peut pas comprendre certaines prises de position, par exemple. Et j'aurais tendance à dire oui, je le vois, bien sûr. Mais je le vois d'une manière qui ne me plaît pas beaucoup, qui est toujours catastrophiste. C'est-à-dire qu'on ne, on n'a que des papiers d'apocalypse aujourd'hui. Les gens, un certain nombre de spécialistes sont devenus des spécialistes de l'apocalypse, et ça m'inquiète un peu. Je le regrette. Prendre la juste mesure du problème est, à mon sens, une partie de la solution. Et le problème, s'il est grave, on n'est qu'au début du problème. Ce qui veut dire que on peut encore faire beaucoup de choses. Et la deuxième chose qui apparaît, et alors ça c'est très très fort, mais c'est lié aux déformations de la presse internationale, c'est que les grands journaux et les journaux puissants de ce pays, enfin de cette planète, viennent de pays riches. Et ces pays riches ont trouvé leur bouc émissaire. Et leur bouc émissaire aujourd'hui, c'est clair, ça s'appelle la Chine, pour beaucoup, l'Inde pour un peu, et eux-mêmes ne sont pas du tout remis en question. C'est-à-dire que les États-Unis ou les Français ou les Européens estiment, par exemple, les Européens estiment qu'ils font beaucoup pour l'environnement. Alors, ils en font un peu, mais la première chose à faire, c'est déjà changer de mode de vie. Les principaux pollueurs, les principaux responsables de l'état dans lequel la planète se trouve aujourd'hui sont en Europe et aux États-Unis, et pas en Chine, et pas en Chine. Et la pollution chinoise, elle provient d'usines qui appartiennent à Adidas, Nike ou à des boîtes françaises. C'est aussi un autre truc qui doit être dit. C'est-à-dire que ce ne sont pas les Chinois en eux-mêmes. Les Chinois, ils récupèrent quelque chose pour vivre. Donc, quelque part, on demande à tout le monde de faire des concessions. Les seules vraies grandes concessions à faire, ce sont les Occidentaux qui doivent les faire, et c'est le seul moyen de changer les choses. Alors ensuite, aller dire aux autres, c'est pas bien de casser l'Amazonie au Brésil parce que vous abîmez la biodiversité, c'est gentil. C'est gentil, mais quand vous êtes au Brésil, vous vous dites, ben oui, mais les gens, quelque part, ils s'en foutent de tout perdre, puisqu'ils ont déjà rien. Mmh. Ce qu'ils perdent, c'est nos lieux de vacances.
Vous dirigez un festival de films qui traite des problèmes environnementaux, c'est ça ?
Je ne dirige pas, mais j'en fais partie.
D'accord.
Je fais partie de l'organisation, en partie. Enfin, c'est le Festival international du film d'environnement dont on est partenaire. L'organisation, je participe à un certain nombre de choses autour de ça, et qui se tient à Paris en mois de novembre, et qui est d'Île-de-France, et qui montre des documentaires autour de l'environnement au niveau international, qui est un festival absolument passionnant, et qui, à mon sens, permet justement de voir ce que d'autres pays ou d'autres endroits pensent de l'environnement. Il y a de très très belles choses. Et l'année dernière, celui qui a gagné le premier prix, c'était Mirage d'un Eldorado. C'est sur l'exploitation au Chili d'un certain nombre de mines. Et c'est développement durable. C'est-à-dire qu'il y a un aspect social. Et on voyait comment de grandes boîtes canadiennes vont tricher sur à peu près tous les niveaux de l'environnement pour faire de l'argent.
D'accord. On n'a pas le temps de parler du programme, mais on y reviendra certainement parce que c'est un
c'est
festival
passionnant. C'est vraiment un
passionnant,
festival passionnant.
Qui est tout à fait dans le créneau de C'est pas du vent. Merci Eric Glover de nous avoir fait profiter de votre poste privilégié d'observateur de la presse internationale quand elle parle d'écologie, en tout cas. Votre journal Courrier International, un hebdomadaire.
Un hebdomadaire,
en vente en kiosque ou sur abonnement. Votre
ou sur le site internet,
rapidement.
www.courrierinternational.com.
Dans 3 minutes, notre reportage, et dans quelques secondes, un point de l'actualité de ce mardi 11 août.